Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour parler de terrorisme et plus particulièrement de cette forme spéciale et en même temps devenue si centrale de terrorisme qu'est l'attentat suicide, j'ai le plaisir de recevoir le chef d'escadron Benoît Schneublen, donc bonjour.
Bonjour.
Alors, je l'ai dit, vous êtes donc officier dans l'armée de terre. Vous étiez d'ailleurs à l'école de guerre l'an dernier, et pourtant, c'est pas pour un dans le viseur qu'on vous reçoit, comme c'est souvent le cas dans le podcast pour les stagiaires ou anciens stagiaires de l'école, mais pour un ouvrage que vous faites paraître aux éditions de cette même école de guerre, intitulé « La balistique du martyr, comprendre le terrorisme suicide ». Alors, c'est un ouvrage qui est très intéressant parce qu'en tant qu'il traite de terrorisme, il se penche sur une forme de danger armé qui menace la France, même si la France a mis beaucoup plus longtemps que d'autres pays à dire qu'elle était en guerre directement contre le terrorisme. On en parlera peut-être, mais il reste que le terrorisme est évidemment un danger face auquel la France répond militairement, que ce soit au Sahel, en Syrie ou ailleurs. Et vous vous concentrez sur une de ces itérations en particulier, qui est le terrorisme suicide. C'est-à-dire, on va revenir sur la définition, mais un terrorisme où le principal acteur sacrifie sa vie de manière délibérée pour la réussite de l'opération, à savoir l'attentat. Et vous en traitez, et c'est là que c'est particulièrement intéressant, notamment à travers un regard de militaire, c'est-à-dire en termes tactiques, et en réfléchissant à ce que cette forme-là d'action armée permet ou pas de faire par rapport à d'autres modes opératoires, et donc en l'intégrant dans une espèce de cohérence globale. Donc, ma première question, qui a l'air très banale, mais qui en fait est un peu plus technique qu'il n'y paraît, serait de savoir comment vous définissez le terrorisme suicide exactement. Ce que je veux dire, c'est, quand je dis que ça a l'air banal, on pourrait se dire que c'est un attentat avec beaucoup de victimes et où l'auteur meurt, mais en fait, quand on regarde dans le détail, c'est pas des lignes si claires à tracer. Parce que d'abord, la définition d'un attentat peut être pas si évidente, et puis surtout, si on retient même l'intention suicidaire, il est parfois difficile de l'établir exactement, notamment si l'auteur est abattu après son acte, par exemple par la police ou par des forces militaires. Donc comment est-ce qu'on pourrait définir de manière minimale un attentat suicide, le terrorisme suicide ?
Effectivement, c'est déjà une très grosse partie du problème. Le terrorisme suicide, donc il est terroriste et suicidaire. Terroriste, c'est une notion qui peut paraître très simple comme ça, puisque la France fait partie des pays qui condamnent l'usage du terrorisme, quelle que soit la nature de la cause défendue par les groupes armés qui y ont recours. Seulement, cette condamnation, elle est historique. Elle n'est pas essentielle.
C'est-à-dire qu'on condamne ce qu'on appelle terrorisme, mais on ne le définit jamais exactement.
On le définit avec des textes de loi, et ces textes ont une histoire qui serait l'objet d'une étude intéressante d'ailleurs, en soi. Le terrorisme, c'est un mode d'action, mais après tout, les kamikazes japonais qui se jetaient sur les navires américains n'étaient pas, certes, des terroristes, puisqu'ils participaient à une action conventionnelle, armée. Pourtant, en se jetant sur les navires, ils essayaient, au-delà de l'effet torpille, ils essayaient aussi de semer la terreur et l'effroi dans les troupes, dans les rangs ennemis. Donc, quelque part, ils cherchaient aussi à obtenir un effet de terreur.
Oui, le cas des kamikazes japonais est intéressant parce que c'est le cas limite. C'est-à-dire, ils se suicident, ils font beaucoup de victimes, ils cherchent à semer l'effroi, et pourtant, parce que c'est dans le cadre d'une guerre conventionnelle qui était la Seconde Guerre mondiale, la toute fin de la bataille du Pacifique, on ne peut pas vraiment dire que ce sont des terroristes parce qu'ils sont intégrés à une armée, c'est ça ?
Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'historique. Ensuite, ce suicide, justement, selon qu'il est utilisé dans le cadre d'une action conventionnelle ou d'une action non conventionnelle, terroriste, proprement, au sens moderne, il est plus ou moins efficace. On remarque dans l'histoire que l'usage du suicide comme arme, je reviendrai ensuite sur ce point, ce deuxième point de la définition, l'usage du suicide comme arme, comme outil militaire, n'est pas très efficace dans les combats conventionnels. Jamais l'Iran n'a pu obtenir un gain significatif sur le terrain en envoyant des combattants se suicider face aux mitrailleuses irakiennes lors de la guerre Iran-Irak. Les Japonais n'ont pas réussi à stopper l'avancée de l'amiral Ashley dans le Pacifique avec leurs kamikazes. Les résultats au XXe siècle de l'usage du terrorisme à des fins militaires dans un cadre conventionnel ne sont pas significatifs. À l'inverse de l'usage du terrorisme du suicide dans des actions proprement terroristes, donc hors du cadre conventionnel, de la guerre conventionnelle. Où là, effectivement, il a toute son efficacité.
Oui, c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là que le sujet devient vraiment opérativement... Effectivement, si on fait le bilan, si on fait un peu d'histoire militaire, c'est quand même pas rare les suicides. Enfin, c'est difficile de qualifier toujours ça de suicide. Mais, disons, les actions, on a très peu, voire pas de chance d'en sortir. C'est même un topos de l'histoire militaire daté, quoi. Du merci, on l'a fait plus comme ça, mais de jouer sur le lyrisme de la charge héroïque, sur le combattant qui va mourir au front en sachant qu'il va mourir. C'est quelque chose d'inscrit dans l'histoire militaire telle qu'on la connaît, et pourtant, c'est seulement quand ça entre dans une guerre non conventionnelle, dissymétrique, que ça finit par avoir vraiment un intérêt opératif, quoi.
C'est ce que je dis. Et vous introduisez très bien la deuxième partie de la définition, c'est la difficulté de l'usage du suicide comme arme. Est-il volontaire ou pas ? Un poilu français qui sort de sa tranchée, qui va se jeter devant les balles allemandes à la bataille de Verdun, va certes s'offrir pour la patrie. Il va certes, il y a de grands risques de tomber héroïquement au service de la France. Pour autant, sa mort ne sert pas son objectif. Sa mort n'est pas programmée comme un élément constitutif de la réussite de sa mission. Il n'est pas dit que parce qu'il va mourir, il pourra atteindre sa cible. Et c'est ici que je marque la démarcation très, très, très franche entre l'usage du suicide comme arme et le suicide ou la mort envisagée comme hypothèse. Il y a une littérature assez riche là-dessus, sur la mort envisagée comme hypothèse du soldat.
Oui, la mort comme hypothèse de travail. On a une référence en tête. Bon, du coup, est-ce qu'on peut retracer justement un moment, en quelque sorte, d'émergence de ce terrorisme suicide ? Alors, on peut tout de suite dire que, évidemment, on peut, et on va souvent chercher un parallèle médiéval très lointain avec la secte des assassins, des hachichines. Alors, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent lire Marco Polo, ils peuvent lire Bernard Lewis en sciences humaines, ils peuvent même lire Amin Maalouf avec son très beau livre Samarkand, et ils peuvent surtout jouer à Assassin's Creed, qui traite aussi tout à fait de ça. Et donc, il y a cette idée d'assassins d'une secte fanatisée qui vont assassiner des grands personnages et dont la mort est constitutive du modus operandi. Mais si on laisse de côté un peu cette résonance historique extrêmement orientale, extrêmement séduisante parce qu'elle a été transfigurée dans la culture populaire, disons que l'apparition contemporaine de l'attentat suicide, à quand est-ce qu'on peut la faire remonter ?
Une apparition significative de l'attentat suicide, c'est-à-dire le moment où le suicide va servir non pas une bataille conventionnelle du type les campagnes Kerbala 1, Kerbala 2, Kerbala 3 de la guerre Iran-Irak 79-80, où là il y a une référence très très claire effectivement à aux premiers âges de l'ère islamique et aux premiers sacrifices limite suicidaires du parti d'Ali, le Shiat Ali. Dans notre histoire contemporaine, c'est le moment où on va transférer cet usage tactique du suicide dans la guerre Iran-Irak vers le Levant, d'autres organisations.
Il va quand même falloir s'arrêter une seconde là-dessus, parce que effectivement, ça revient. Bon, ça revient avec l'imam Khomeini. Globalement, la révolution islamique, enfin iranienne, en 1979. Mais il faut peut-être juste détailler un peu ce que vous détaillez là, parce que c'est pas totalement un hasard si ça revient en Iran, parce que il y a au cœur du chiisme, du mythe fondateur du chiisme, donc de la bataille de Karbala, on va pas refaire l'histoire de l'islam des premiers temps, mais bon, disons les enfants, les descendants d'Ali, le troisième calife, quatrième calife, bon, les descendants d'Ali, il y a un mythe sacrificiel, il y a un mythe du martyr avec ses enfants d'Ali qui sont morts à la bataille de Karbala, et du coup c'est une constante de très longue durée dans l'histoire du chiisme, et donc c'est pas totalement un hasard si ça revient par le monde chiite, en l'espèce l'Iran post-1979.
Exactement. L'arbre de la révolution s'abreuve du sang des martyrs. C'est un fait. Dans la révolution iranienne, dès le début, la rhétorique du sacrifice et de la mort volontaire pour servir la cause commune et la communauté est très présente. C'est, je décris d'ailleurs la mécanique tout à fait mathématique qui permet d'inverser le rapport des forces, le rapport de force entre les forces de sécurité du Shah et puis les manifestations massives en soutien dans les, dans les phénomènes de deuil pour sacraliser un petit peu les martyrs de la révolution. L'ayatollah Khomeini, il va se servir de l'origine de sa puissance. L'origine de sa puissance par rapport à l'Irak, c'est d'avoir une population très nombreuse, une mortalité infantile qui a été divisée par deux, puis par trois, et une natalité très forte, une très très grosse vitalité démographique. C'est un peu l'origine de sa puissance. Et il a,
donc au sein de la guerre Iran-Irak.
Exactement.
C'est-à-dire, ils ont moins de canons que Saddam Hussein soutenu par les Américains et les Occidentaux, mais ils ont plus de monde.
Ils ont plus de monde et ils ont une idéologie cohérente. Ils ont un message, un narratif cohérent, une histoire. Ce sont les successeurs du parti d'Ali, ceux qui sont sacrifiés. Et le sacrifice fait partie de la prise de pouvoir, en fait. Je le répète, l'arbre de la révolution s'abreuve du sang des martyrs. On va utiliser cette mécanique-là.
Mais d'ailleurs, on le voit très bien dans ce que vous décriviez à l'instant. Les opérations, donc dans la guerre Iran-Irak, des opérations d'attaques suicides multiples, elles sont nommées en référence à la bataille de Karbala, donc le mythe fondateur
exactement.
Du chiisme.
Exactement, ce sont des campagnes qui s'appelleront Karbala 1, Karbala 2, Karbala 3, etc. Les jeunes gens qui vont se jeter sous les chars irakiens et sous la supériorité technologique irakienne porteront autour du cou une petite clé. Une petite clé comme celle que l'on trouve sur les fournitures de bureaux qui symbolise l'ouverture des portes du paradis. Tant et si bien qu'à la fin il n'y aurait même plus de clés métalliques pour leur mettre autour du cou, on trouvera des clés en plastique, enfin bref, il y a un commerce des clés. Il y a une économie des martyrs, la famille qui a envoyé un ou plusieurs de ses enfants se sacrifier dans les campagnes Karbala recevra des rétributions en réfrigérateur, mais surtout elle sera respectée par le reste de la communauté.
Ouais, on reviendra là-dessus parce que c'est évidemment une dynamique extrêmement importante de l'attentat suicide. C'est le fait qu'il faut qu'il y ait une communauté qui reconnaisse le sacrifice. Mais on en reparlera. Mais donc, il y a ce moment donc de la guerre Iran-Irak, donc 80-88. Et puis, bon, c'est en même temps, ça apparaît là par le chiisme. Et donc, on voit que c'est pas un hasard. Et en même temps, ça se décloisonne juste après, dans le cadre d'une guerre qui est importante de ce point de vue-là, qui est l'occupation du Liban par Israël à partir de 1982. Où Israël est évidemment en confrontation directe avec le Hezbollah libanais, qui est donc soutenu et alimenté humainement, mais aussi tactiquement par l'Iran, donc qui récupère dans une certaine mesure ses techniques, enfin tactiques plutôt, d'attentats suicides.
Exactement. Il y a une sorte de transfert de technique ou de tactique presque contre nature. La communauté chiite, avant l'occupation, n'a pas la position prépondérante qu'on lui connaît actuellement dans le Liban contemporain. Mais elle est en pleine ascension. Elle gagne en importance économiquement, socialement, numériquement également. Elle bénéficie de l'appui idéologique et du Hezbollah et donc du soutien idéologique du grand voisin, du grand frère iranien. Dans le même temps, Israël se débarrasse d'une partie des radicaux islamiques et les stocke, pour ainsi dire, à proximité de la zone de confrontation. Toujours est-il que dans cette période-là, donc juste après la guerre Iran-Irak, il y aura un frottement, il y aura une proximité entre le Hezbollah et des réfugiés palestiniens qui vont servir une cause tout à fait différente, une cause indépendantiste palestinienne. Et là, on va se rendre compte que l'usage de l'attentat suicide peut être très efficace politiquement lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsqu'il est utilisé sous forme d'attentat justement, c'est-à-dire pas sous forme de campagne militaire conventionnelle.
Et en plus, ça fait un transfert, c'est-à-dire le Hezbollah chiite tire ses tactiques de l'Iran chiite, oui. Mais en même temps, il se retrouve au Liban à lutter, pas exactement aux côtés, mais un peu conjointement avec le Hamas sunnite. Et donc c'est le moment où l'attentat suicide sort du chiisme pour être intégré aussi par les combattants palestiniens sunnites.
Exactement.
Donc, extension, décloisonnement de ce terrorisme suicide. Et bon, surtout, il faut peut-être passer au grand acteur qui va présider non seulement au décloisonnement, mais même à l'internationalisation de ce mode opératoire. C'est vraiment Al-Qaïda. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, en vous lisant, j'apprenais que c'est... On sait que la matrice de Al-Qaïda, enfin même historique, c'est la lutte en Afghanistan dans les années 80. Ce que vous décrivez, c'est que c'est pas du tout un mode opératoire qui est utilisé dans la lutte contre les soviétiques en Afghanistan, mais à partir de la fin de cette lutte, donc des années 80, l'internationalisation d'Al-Qaïda, Al-Qaïda va récupérer et va ensuite mettre en œuvre dans les années 90 cet attentat suicide.
Effectivement. Pour mener une campagne d'attentat suicide, il faut défendre un sanctuaire. Il faut avoir un sanctuaire à défendre. Or, Oussama Ben Laden et ses soutiens, lorsqu'ils vont prêter main forte à la rébellion en Afghanistan, ne défendent pas leur propre sanctuaire. Le sanctuaire afghan est défendu par différentes factions pachtounes. Dans le Pashtun Wali, dans le code Pashtun Wali, le code d'honneur, il n'y a pas cet usage du suicide comme arme. Il est même condamné. Donc les gens qui défendent leur propre sanctuaire n'y ont pas recours. Il faudra que les soutiens sunnites radicaux avec Oussama Ben Laden se sentent eux-mêmes atteints dans leur sanctuaire avec un autre événement majeur, l'implantation des bases américaines dans la péninsule arabique, pour que eux-mêmes puissent agglomérer tous les messages qui composent le narratif qui permet de lancer une campagne d'attentat-suicide.
Ouais, bah alors parlons-en maintenant. Effectivement, un élément complètement central, et d'ailleurs on perçoit, il y a une certaine logique avec le fait que ça ait démarré dans l'occupation du Sud-Liban, enfin du Liban par les Israéliens. Ce que vous décrivez, c'est qu'une composante absolument centrale pour qu'il y ait du terrorisme-suicide, c'est qu'il faut qu'il y ait un sanctuaire qui soit attaqué.
C'est ça. Robert Pape, ce chercheur américain qui a beaucoup écrit sur, d'une part, les frappes indirectes et d'autre part, sur le terrorisme-suicide, et l'étude parallèle de ces deux types d'écrits est très intéressante, dit que seule une communauté peut faire un martyr. Un individu peut mourir, mais seule une communauté peut faire un martyr. Pour faire ce martyr, donc le candidat terroriste suicide, il faut qu'il y ait un sanctuaire à défendre, c'est-à-dire une cause universelle dans la communauté, partagée par tous, un sanctuaire à défendre. Il faut que ce sanctuaire soit évidemment occupé par une force étrangère, que cette force étrangère soit armée, parce qu'il faut que ce soit manifeste. Et puis après, il peut y avoir des circonstances aggravantes, des circonstances ou facilitantes, selon le camp dans lequel on se place. Si cette force étrangère, en plus, sert une démocratie, eh bien, ça facilite les choses, puisque, bien sûr, l'impact sur l'opinion publique sera plus grand. Et on peut parfois prêter, enfin, il prête parfois aux démocraties une fragilité systémique face à ce type d'action, à tort ou à raison.
Ouais, donc l'idée, c'est il faut qu'il y ait une terre, une présence étrangère sur cette terre qui soit perçue comme intolérable par une communauté, et c'est à ce moment-là que cette communauté peut produire des terroristes suicides.
Exactement. Et pour autant, le scénario qu'on vient de décrire, il s'est reproduit plein de fois dans l'histoire. Toute l'histoire des guerres et des invasions, avant et après l'ère clausewitzienne, est faite de terres qui sont occupées par des soldats, des armées étrangères et des voisins. Il faut que cette armée, il faut que cet occupant ait une religion qui ne soit pas la même que celui de la terre que celle de la terre occupée. Je peux apprendre une nouvelle langue avec un envahisseur qui va m'apprendre une nouvelle langue. Je peux pas apprendre une nouvelle religion sans renoncer à la mienne. La langue, c'est cumulatif. La religion, c'est plus difficilement cumulatif. Donc, là, ça me place dans une position de dissonance très cruelle et je dois faire des choix. Et ça facilite l'extension narratif.
Donc, implantation des bases américaines dans la péninsule arabique qui, en aval, bon, alors c'est difficile de mesurer le lien de causalité, parce que de toute façon, c'était en fermentation à cette époque-là, mais fournit en tout cas un sanctuaire à défendre pour Al-Qaïda, qui va amener au grand moment de basculement, au grand moment où il y a vraiment des attentats suicides qui font beaucoup de victimes et qui sont très spectaculaires, c'est les attentats de 98, donc contre les Américains, donc à Nairobi, et à Dar es Salaam, puis évidemment le grand moment du 11 septembre 2001.
Voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs très surprenant. Le grand jeu d'encerclement stratégique américain vise à maintenir à son plus bas niveau l'action des acteurs supposément ennemis des États-Unis. Ces acteurs, l'Iran, par exemple, prenons aussi la Corée du Nord, n'ont fourni aucun terroriste suicide face aux Américains. Les terroristes suicides venaient des terres que eux-mêmes occupaient, dans lesquelles ils avaient implanté des bases pour appuyer leur action. Il y a un paradoxe. Pour autant, le message est très clair. Lorsque l'on étudie les testaments de Mohamed Atta et d'autres acteurs du 11 septembre, l'occupation, le sacrilège que constitue l'implantation des bases américaines dans la péninsule arabique est manifeste. Et ça, c'est une constante. C'est ce qui viendra justifier l'attentat et puis l'autolyse, le sacrifice personnel de l'auteur.
Alors, maintenant, si on essaye d'envisager la situation en termes, disons, tactiques, comme vous essayez de le faire dans l'ouvrage, il faut constater, peut-être un peu froidement, que c'est malgré tout, en fait, un mode opératoire extrêmement efficace. Évidemment, dans le cadre d'une lutte toujours dissymétrique du faible au fort, mais si on prend un exemple que vous retenez, qui est instructif de ce point de vue-là, c'est l'Afghanistan, qui est un peu le champ de bataille de tout ça, dans les années 2000, notamment parce que c'est un terrain qui est plutôt verrouillé par les armées occidentales qui occupent le pays dans une certaine mesure. Et les chiffres que vous donnez sont très parlants puisque les attentats au sein de toutes les actions, disons, contre les forces de la coalition, les attentats suicides représentent 3% des attaques, mais 48% des morts.
Exactement. Ils sont plus rares. Bien sûr, alors d'autant plus rare qu'ils ont mis un certain temps à s'implanter en Afghanistan. Comme je disais, ils n'appartenaient pas initialement au code de guerrier afghan. Il a fallu que ce soit importé par le soutien d'Al-Qaïda, réseau Haqqani et d'autres acteurs. Mais il va montrer tout de suite son efficacité redoutable sur le terrain. C'est, disaient certains formateurs de la Task Force Paladin et des différents acteurs de la lutte contre les engins explosifs improvisés qui travaillaient pour l'ISAF. C'était le missile guidé du pauvre. Cette expression est très parlante. Effectivement, à moindre coût, elle permet d'acheminer une quantité de charges militaires sur une cible à haute valeur ou valeur moyenne et sans dépenser des sommes mirobolantes.
Oui, c'est ça. Alors qu'en parallèle, il y a aussi ce qui va devenir aussi une constante, c'est ce qu'on appelle les IED, donc les engins explosifs improvisés. Et il y en a beaucoup aussi. Et ils montent en gamme, mais la lutte contre les IED monte aussi en gamme, donc on est de plus en plus fort pour éviter les attentats aux IED. Par contre, les attentats suicides, c'est plus compliqué.
Exactement. Exactement. Sur une période de 12 semaines à peu près, fin 2010, début 2011, il y avait entre 4800 et 5200 incidents relatifs aux IED sur l'ensemble du théâtre. Alors j'entends par incidents relatifs aux IED... les trouvailles de cash, les attaques réussies, échouées, déjouées, etc. Donc tout type d'incidents relatifs aux IED. Il y avait donc une activité très intense qui captait une grande partie des ressources investi par les États-Unis et par leurs alliés en Afghanistan, même dans la recherche technologique, les recherches sur les, pour essayer de capter, pour essayer de brouiller les ondes, pour essayer de trouver les dispositifs et essayer de, aussi de protéger la troupe une fois qu'elle a été frappée. Et dans ce, dans cet investissement massif dans la lutte contre les IED, la part consacrée à la lutte contre les IED particuliers que représentaient les suicide bombers, cette part-là était c'était un petit peu floue. Ça n'a pas été identifié comme un mode d'action particulier. C'était, les suicide bombers étaient noyés dans le reste de toutes les actions suicides. Il a fallu attendre quelques temps, quelques mois, pour se rendre compte que leur efficacité était beaucoup plus grande, était incomparable à celle de l'utilisation de charges qui visaient moins leur cible.
Ouais, mais alors ça, c'est important, il faut insister dessus, parce qu'on dit souvent que l'objectif du terrorisme et des attentats suicides, c'est de frapper les esprits et les opinions publiques, et c'est pas faux. Mais ce que vous montrez, ce que ces chiffres montrent, c'est que d'un strict point de vue militaire tactique, ça reste de très loin ce qu'il y a de plus rentable, quoi.
Voilà. C'est une évidence, l'attentat suicide ne frappe pas que les esprits, bien malheureusement.
On a toujours cette idée que c'est dérisoire dans le grand schéma, mais non, pas du tout. Sur certains théâtres, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace pour la lutte dissymétrique.
C'est ça, c'est un choix rationnel. L'organisation qui y a recours se dit... Mon ennemi est supérieur à moi, peut-être en nombre, en tout cas technologiquement. J'ai beaucoup de mal à le vaincre sur le combat, sur le terrain conventionnel. Je n'ai donc aucune raison de rester sur ce terrain-là. Je vais donc changer les règles du jeu. Il veut s'attaquer à ma survie. Très bien, je vais utiliser ma propre survie comme une arme. Et donc ma mort, je vais l'utiliser comme arme pour pouvoir atteindre des cibles plus efficacement. Donc je change les règles du jeu. Et ce faisant, évidemment, je frappe encore plus les opinions. Mais effectivement, au départ, il y a une impasse tactique qui fait que je vais devoir avoir recours à un autre type d'arme que les armes conventionnelles. Et dans cette réflexion sur le recours à un autre type d'arme, effectivement, le terrorisme suicide tombe comme une évidence parce que il permet de rentabiliser les charges que je vais projeter sur l'ennemi. Et ensuite, c'est d'autant plus rationnel que je vais me rendre compte que l'usage du terrorisme suicide dans les campagnes d'attentats ne réduit pas le potentiel de combat des organisations.
On va revenir dessus. Mais notamment, faut dire qu'en plus, il faut rentrer un peu dans le détail de ce que c'est que le terrorisme suicide dans ces années-là. Et ce que vous décrivez aussi, c'est qu'on voit le terrorisme suicide devenir de plus en plus complexe dans les années 2010, de plus en plus élaboré, où tout d'un coup, c'est plus les guerriers en Irak 80-88, c'est plus juste on envoie quelqu'un se faire sauter. C'est... en deux phases, c'est des attaques, des vrais assauts à l'arme automatique et en dernier recours, à la fin, une explosion. Mais du coup, ça, on comprend bien que ça permet d'accéder à des cibles beaucoup plus élevées, beaucoup plus stratégiques, beaucoup mieux défendues, si on considère que c'est plus juste une pure explosion, c'est une attaque qui se termine par un suicide, quoi.
Comme dans tout le reste de l'art de la guerre, c'est bien la combinaison des effets qui permet d'obtenir des résultats et pas un seul effet pris séparément. Et effectivement, à cette période-là, on verra donc un grand nombre de terroristes suicides participer également à des combats conventionnels. C'est-à-dire que le combat se fera par phase. Il pourra y avoir une première vague d'assaut qui va se faire exploser sur un premier périmètre défensif défendu par l'armée nationale afghane, par exemple, très souvent, ou la police, et puis suivi de combattants armés d'armes légères d'infanterie qui pénètrent le périmètre défensif, qui vont exploiter ensuite à l'intérieur le chaos qui a été généré par cette attaque initiale. Ou inversement...
Et qui finissent en plus par se faire sauter à la fin.
Exactement.
Quoi.
Ou inversement, l'attaque initiale avec des frappes indirectes, de mortiers, etc., on rencontre encore ça aujourd'hui, sera suivie ou exploitée avec des combattants qui seront dotés à la fois d'armes légères d'infanterie, mais également d'une veste explosive pour assurer le finish. On a vu ça également dans les attentats domestiques en France, mais là, avec une différence notable, c'est que la veste portée par le terroriste était surtout pour essayer de s'assurer de rentabiliser la fin de l'action. C'est-à-dire que ce qui permettait vraiment d'obtenir un bilan donc des morts en face d'une population, c'était plus les armes que la veste.
Ouais. Mais alors, ça nous amène donc, vous avez commencé à y faire référence, ça nous amène à une question qui est centrale, qui est celle de l'identité et du recrutement de ces terroristes suicides. C'est-à-dire, pour reprendre ce qu'on disait là, c'est Évidemment qu'il n'est pas possible de faire des attaques complexes comme ça quand on envoie des femmes et surtout des enfants se faire sauter, parce qu'ils peuvent difficilement, enfin plus difficilement, commencer par une phase de combat urbain, quoi. Mais donc, et ça on sait que c'était à une certaine époque, parce que certaines organisations répugnaient à certains moments à sacrifier des combattants, disons, qualifiés dans des attentats suicides, parce qu'ils avaient peur de plus en avoir assez ensuite. Mais bon, donc le fait qu'on se mette à multiplier à ce point-là les attentats complexes, donc des attentats avec des combattants qualifiés, ça implique que, en fait, on est capable de recruter derrière et qu'il n'y a pas de risque que la source se tarisse.
Et ça implique, en retour, le très grand niveau de réflexion, la rationalité de l'ensemble de la campagne. C'est-à-dire que la gestion de ces ressources est comptée. Elle est tout simplement rationnelle. Pour générer une capacité militaire, il faut des ressources. Là, en l'occurrence, la ressource critique, c'est la ressource humaine. On n'a pas vu dans les années 2000-2010 d'organisation terroriste tarie du fait de l'usage d'attentats suicides qui aurait tari les rangs, qui aurait clairsemé les rangs d'organisations terroristes. Je prends un exemple beaucoup plus récent. Sur la fin du califat géographique de Daesh, certains candidats au martyr devaient postuler pour le martyr et ils n'étaient pas acceptés tout de suite. Donc il y avait des listes d'attente. Et ces listes d'attente étaient parfois tellement longues qu'ils avaient le temps de mourir dans un combat conventionnel avant d'avoir l'occasion de se donner la mort dans un combat suicide. C'est dire que l'organisation gérait le flux des entrants et des sortants, de façon parfaitement cynique. Il y a une vraie rationalité là-dedans.
Ouais, et... Oui, mais notamment parce que, du coup, pourquoi est-ce que ça se tarie pas ? Ce que vous décrivez aussi, c'est que, en fait, les attentats suicides ont un effet de recrutement qui est réel, notamment parce que c'est ce qu'on disait, c'est dans le cadre d'une lutte pour libérer un sanctuaire occupé par une présence étrangère, mais les attentats suicides ont de fait un effet de recrutement tel que chaque attentat suicide est rentable d'un simple point de vue comptable des entrants contre les sortants.
Exactement, c'est ça. L'attentat suicide, s'il est en cohérence avec le narratif global proposé par l'organisation, va avoir un effet d'amplification. Je vais prendre un exemple très simple. Dans certaines régions de la Palestine, il y a, comme partout, des gens qui sont pour la paix, des gens qui sont pour la guerre, des gens qui sont plutôt neutres. Il y a un sujet qui met tout le monde d'accord, ce sont les martyrs. C'est-à-dire que le neutre ou le pacifiste n'ira pas insulter la mémoire d'un martyr du village. Donc, loin d'exprimer une radicalité extrême, l'usage du terrorisme suicide, c'est plutôt un facteur d'agrégation, un facteur de mobilisation de l'ensemble de la communauté. C'est pas la marque d'une radicalité extrême, c'est plutôt le sujet qui met tout le monde d'accord. J'appartiens à telle communauté, quelqu'un s'est sacrifié pour la communauté dans le cadre d'un attentat suicide.
Même si on considère que ce n'est pas le meilleur moyen, on va quand même...
Ouais, exactement. Quand même je serai pour la paix et pour le dialogue entre les communautés, je n'irai pas salir sa mémoire et je n'irai pas insulter sa famille en allant contredire son testament.
Ouais. Et donc en fait, on voit bien... Ressources humaines, donc sans grand problème. Ressources techniques, bon, alors c'est un explosif, qui est donc le TATP, je ne vais pas me risquer à essayer de répéter le nom technique, mais qui se trouve aussi assez facilement. Donc en fait, la gestion des ressources ne pose pas vraiment de problème. C'est juste une question de réussir à le faire au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière.
Exactement. Il y a eu des efforts pour essayer de maîtriser cette gestion des ressources, des explosifs. Il y a eu des lois qui sont sorties sur la teneur chimique des engrais pour l'agriculture, etc.
Mais la plupart des explosifs, c'est fait en gros avec des engrais agricoles, quoi.
Avec des engrais agricoles, parfois mélangés à des explosifs d'origine militaire, mais qui sont trouvés en quantité phénoménale sur certains terrains dans certaines régions du globe. Donc l'approvisionnement des ressources ne pose pas trop de problème, d'autant que dans un pays très développé, avec une force de sécurité très performante, finalement, l'usage d'un camion, d'un pistolet en plastique, et voire d'un couteau de cuisine, peut permettre à l'auteur de parvenir à ses fins. Donc le problème ne se pose pas trop en matière d'acheminement de ressources matérielles pour confectionner les explosifs. Voilà. Vous avez mentionné effectivement cette épopée du TATP qui est passée d'un continent à l'autre, enfin d'un pays à l'autre, puis d'un continent à l'autre dans différentes organisations. On l'a retrouvé avec Richard Reed, on l'a retrouvé en Afghanistan également, on l'a retrouvé bien sûr au Bataclan également. Bon, il y a une communauté scientifique dont le rôle est de favoriser le transfert de technologie, le transfert de technique d'un continent à l'autre. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là pour beaucoup d'organisations malheureusement.
Ouais, mais alors revenons, enfin plutôt restons sur cette question des gens, du recrutement, parce que maintenant si on entre un peu dans l'identité des personnages, c'est-à-dire contrairement à ce qui a été parfois peut-être décrit, c'est pas des populations majoritairement particulièrement défavorisées, quoi. C'est pas des gens illettrés, enfin c'est plutôt des gens avec un niveau d'éducation moyen, voire bon, qui sont sautés, qui sont attirés par ce genre d'action. Donc voilà, c'est important parce que ça permet de sortir aussi des explications un peu simplistes de l'idée que voilà, il suffirait de tout s'explique par la misère, l'illettrisme, etc. Non, c'est des raisons plus compliquées, quoi.
Exactement. Il y a des griefs réels au départ, hein, tels que l'occupation ou des conditions sociales ou économiques un peu disparates. Il y a au départ des griefs réels, d'où l'usage du terme balistique pour balistique du martyr. C'est-à-dire qu'au départ, avant d'avoir cette inertie stratégique, il y a bien une charge propulsive pour le missile. Et donc, voilà, il y a des choses tout à fait matérielles. Néanmoins, ce n'est pas le déterminant sur le long terme. Les régions de la Palestine qui ont fourni le plus de terroristes suicides ne sont pas celles qui ont le PIB le plus pauvre, enfin si on répartit par ville, par sous-région. Et c'est pareil, on peut constater ça dans plusieurs théâtres d'opérations.
Même les identités, on sait que les terroristes du 11 septembre, il y avait des gens qui étaient architectes. Enfin, c'est pas des. C'est...
Bien sûr. Le cas de Mohamed Atta était. Est très intéressant. Un des pilotes du 11 septembre, effectivement. Il avait écrit un mémoire d'architecture dans une grande université allemande. Dans ce mémoire d'architecture, il critiquait la verticalité des tours. C'était quelques années avant l'attentat, comme une marque de l'hybris, hein, de l'orgueil occidental. Il ne croyait certainement pas si bien dire, peut-être au moment où il écrivait ce mémoire, mais ce qui est sûr, c'est que son action, au moment où il se projette avec son avion dans les tours du World Trade Center a un sens qui est très clair pour lui.
Ouais, mais parce que je vais insister là-dessus, mais sinon c'est le risque, quoi, de pas vraiment penser les vraies raisons et les vraies causes du recrutement. C'est comme il y a quelques années, on avait le grand truc du Captagon en Syrie, c'était les suicidaires, enfin les combattants, etc. Ils étaient forcément drogués, ils étaient forcément inconscients, etc. Ce qui implique de pas penser l'idéologisation, de pas se poser les vraies questions de pourquoi est-ce qu'il y a une situation qui crée des terroristes comme ça.
Exactement. C'est, je pense que c'est le cœur de cette réflexion. Ne pas sous-estimer la force d'impact d'une idéologie révolutionnaire. Les idéologies révolutionnaires, ça fait des siècles qu'elles permettent de projeter des masses innombrables d'êtres humains les uns contre les autres et de provoquer les pires carnages de l'histoire de l'humanité. Donc ne pas sous-estimer la force d'impact de l'idéologie révolutionnaire.
Et il faut préciser, on l'a dit il n'y a pas longtemps avec Wassim Nasr, mais le djihadisme est une idéologie révolutionnaire, c'est même l'idéologie révolutionnaire dominante à l'échelle mondiale actuelle.
C'est ce que dit Wassim Nasr, et je le trouve très juste, effectivement, il dit que c'est la dernière offre révolutionnaire sur le marché pour un jeune adolescent dans beaucoup de pays, dans un Occident désenchanté, post-héroïque. Donc j'adhère complètement à ce que dit Wassim Nasr et qu'il détaille ce propos avec d'innombrables exemples avec la science qu'on lui connaît. Pour échapper à ce narratif un peu facile du Captagon, de la folie, des fous d'Allah, etc. De fait, le premier, c'est l'usage de médicaments. Quand on regarde dans les faits, l'usage des médicaments dans les attentats terroristes, en fait, ça n'est pas du tout significatif. Il y a eu cette légende de l'usage des drogues pour les auteurs des attentats au Bataclan. Non, ça ne s'est pas vérifié. Et puis deuxième chose, c'est il suffit juste de superposer deux cartes. La carte du nombre de suicides anomiques Donc, c'est-à-dire des suicides d'une partie de la population dus à un changement des conditions socio-économiques. Ou suicide égoïste aussi. La carte du nombre, l'évolution
suicide de égoïste, anomique, tout ça, on va juste préciser, c'est pas vous qui dites qu'un suicide égoïste, c'est des catégories qui remontent à Durkheim.
Oui, voilà,
d'une sociologie du suicide en France au début.
Exactement,
il
faisait une classification des différents types de suicides, et donc, le suicide égoïste et suicide anomique sont un peu le suicide de la personne esseulée, qui a perdu une partie de ses liens sociaux, qui souffre d'une rupture de certains, ou d'un déclassement économique. Et bien, si on superpose la carte de ces suicides-là avec la carte des terroristes suicides, non seulement elles ne se recoupent pas, mais elles sont même complètement opposées. S'il y avait un lien entre le suicide dit anomique ou égoïste de Durkheim et puis le terrorisme suicide, eh bien, à ce moment-là, un pays comme la Russie aurait un taux de suicide, de terrorisme suicide mirobolant. Et à ce moment-là aussi, il n'y aurait pas du tout de suicide, de terrorisme suicide provenant de la péninsule arabique ou de beaucoup de pays musulmans actuels, puisqu'ils ont, finalement très très peu de suicides dans la population d'adolescents ou les populations sensibles dans d'autres pays.
Ouais, donc ça implique de vraiment penser, et c'est ça qui est important, c'est de penser ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, c'est l'idéologie, mais c'est surtout la société qui produit l'attentat suicide, parce que c'est la société qui produit, c'est la communauté qui produit le martyr, et c'est ça qu'ils vont chercher. Sans communauté pour reconnaître l'individu qui va se faire sauter, il n'y a pas de martyr, et donc il n'y a pas de terroriste, quoi.
Exactement, exactement. Et donc il faut trouver tout le dispositif, le dispositif intellectuel, le dispositif culturel, le dispositif religieux, qui permettra d'expliciter ce rapport de l'individu et de sa communauté, et qui permettra aussi de montrer la place centrale de celui qui se sacrifie pour le reste de sa communauté. C'est la raison pour laquelle je fais appel, pour le coup, à René Girard, qui, avec sa théorie, la théorie mimétique, et puis ce qu'il a écrit sur le bouc émissaire, me semblait un outil très puissant pour comprendre ce type de dispositif.
Ouais. Et enfin, il faut peut-être juste préciser, passer un peu de l'autre côté du miroir. Donc, on a bien essayé de comprendre cette cohérence interne, à la fois la généalogie et en même temps la cohérence interne. Mais il faut peut-être en parler 5 minutes des conséquences, notamment pour l'autre côté, c'est-à-dire globalement les puissances occidentales, par exemple sur des terrains de bataille comme l'Afghanistan, etc. Ce que vous décrivez, c'est que ça a des conséquences tactiques qui sont réelles, parce que l'attentat suicide est perçu par les Occidentaux comme une tactique à laquelle il n'y a pas tellement de réponses, il n'y a pas tellement de solutions, enfin si ce n'est des solutions sociétales très larges, mais que globalement, il n'y a pas grand-chose à faire contre une attaque terroriste-suicide, bien organisée, bien structurée, etc. Et du coup, en fait, ça a des vraies conséquences de très long terme, qui est que le seul moyen de l'éviter, c'est de ne pas être là, quoi.
Oui, alors c'est dans l'immédiat, ça peut avoir un effet délétère qui est de séparer la force militaire de la population dans laquelle elle est censée apporter la paix.
Oui, c'est-à-dire il faut se retrancher.
Voilà, se retrancher, éviter les contacts, ne pas aller dans le marché du village, éviter de dialoguer avec les gens. On voit tout de suite le côté délétère de ce type d'attitude. Pour autant, sur un plus long terme, on se rend compte que nos armées sont quand même peu nombreuses, elles sont professionnelles. Donc la population directement touchée par la force d'impact psychologique du terrorisme suicide n'est pas si grande que ça. Lorsque Daesh met en scène des assassinats très violents, avec des scènes de torture, et expose ça dans ses outils de propagande, ça terrorise, certes, mais ça n'a jamais empêché une force coalisée occidentale d'agir. Ça n'a jamais empêché les avions de voler, les chars de rouler et les soldats d'aller au contact et d'aller détruire leur ennemi. Quand bien même ça empêcherait de dormir beaucoup de personnes, bien sûr, des gens normalement constitués. Donc cet impact, il est réel, mais il est à relativiser aujourd'hui, parce que, encore une fois, l'Occident est désenchanté. L'Occident est post-héroïque, il est désenchanté, il y a une sorte de mise à distance de la guerre par rapport au reste de la population, et donc ce dispositif n'atteint pas finalement le cœur de sa cible. Donc voilà, c'est pour ça que je relativise un petit peu l'efficacité du terrorisme suicide, surtout dans la dernière partie, lorsque je parle du terrorisme en France.
Merci beaucoup, commandant Schneblen. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, vous pouvez vous abonner au podcast, et on est preneur de vos notes et de vos commentaires, notamment sur iTunes, et qu'on les lit attentivement. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.